Merci beaucoup aux organisatrices de ce très beau colloque et m'avoir invité à participer à cette discussion, même si je ne suis pas spécialiste de philosophie du droit, donc à ce titre, j'apprends beaucoup de choses. Et donc, comme je le disais précédemment, je viens plutôt d'une tradition non-royalienne, je mets aussi carte sur table. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler d'accès honnête, mais alors deux choses en préambule. Si vous attendiez un exposé un peu explosif sur la violence, ça ne va pas être le cas, donc vous allez être un peu déçus. Première chose, il va être question de violence en fin d'exposé, et plutôt pour montrer comment quelque chose comme un problème de la violence travaille, à mon sens, la philosophie d'accès honnête, et permet peut-être de mettre en scène certaines équivoques des institutions chez honnête. Et par ailleurs, en fait, donc, deuxième chose, je ne suis pas, pas honnêtienne au sens où en fait, l'alpha et l'oméga de mon travail de recherche, et donc à ce titre, je vais avoir une approche un peu de biais, un peu critique à l'égard de sa pensée, peut-être un peu hétérodoxe aussi. Axel Honneth, c'est après Habermas, on le sait, dont il fut l'étudiant à la Sorbonne, un des derniers grands représentants de l'école de Francfort, et pour le dire rapidement, la théorie sociale d'Axel Honneth a pour postulat que la définition comme la reproduction de notre identité suppose et implique un acte de reconnaissance, l'impératif normatif de la reconnaissance. Ainsi, selon Honneth, notre identité, pratique, morale, politique, est façonnée de part en part par la reconnaissance, par des relations de reconnaissance ou par leur absence. On connaît donc Honneth comme un des principaux philosophes du champ foisonnant des théories de la reconnaissance, aux côtés de Nancy Fraser, Charles Taylor, notamment. Cependant, l'originalité de sa pensée consiste à proposer une critique du pouvoir, et peut-être même des institutions, à mi-chemin entre l'héritage du matérialisme historique, en particulier tel qu'il a été réactualisé chez les premiers théoriciens de l'école de Francfort, Adorno et Horkheimer, et de la tradition d'une philosophie politique normative, telle qu'on peut la voir à l'œuvre chez des penseurs comme Rawls ou peut-être même Habermas. Fidèle au père fondateur de la théorie critique, Honneth accorde une importance de premier plan aux sciences sociales, qui ne sont pas seulement considérées comme des tests de falsifiabilité qui viennent, disons, corroborer des hypothèses élaborées sur un terrain spéculatif. Mais disons que les savoirs positifs élaborés par les travaux en sciences sociales, en sociologie, en sciences politiques, en histoire, en psychologie sociale, en tout cas certains de ces travaux, informent la production des concepts du philosophe social et donc aussi les diagnostics au présent, censés renouveler les horizons de la théorie de la justice, qui est bien en fait l'horizon de la philosophie sociale d'Axel. Cette dernière, donc la théorie de la justice, doit en particulier s'ancrer donc dans des expériences négatives, des injustices, des violences, du mépris. Des expériences du mépris. Honneth défend ainsi un modèle de critique immanente, inspiré du négativisme d'Adorno, en faisant des expériences sociales négatives le levier d'une critique des principes normatifs institutionnalisés. Il entendait en effet se démarquer, notamment dans la lutte pour la reconnaissance, à la fois d'un modèle de critique des institutions qu'il jugeait transcendant, à la Rawls, qui reposait sur la formulation de principes universels a priori de justice, et d'un modèle de critique interne qu'il voyait à l'œuvre, notamment dans le communautarisme. Et comme il l'affirme dès sa thèse de doctorat dans Critique d'Ermart, donc un ouvrage qui vient d'être traduit en français, Critique du pouvoir, selon lui, donc, une critique du pouvoir, je le cite, doit être capable de comprendre les structures de la domination, mais aussi les ressources sociales de son dépassement pratique. Donc, à ce titre, le projet de philosophie sociale de Honneth se présente simultanément comme une théorie de la justice sociale et comme une théorie de l'émancipation, c'est-à-dire de la transformation de ce qu'on pourrait appeler les institutions de l'injustice. La justice sociale est alors, doit du coup être redéfinie
comme la garantie de l'égal accès aux différents contextes sociaux de production des relations de reconnaissance. Donc, la garantie de l'égal accès aux différents contextes sociaux de production des relations de reconnaissance. Je vais y revenir. Car en un sens, selon Onnes, nous avons tous besoin d'être reconnus pour pouvoir réaliser notre identité. Cette réalisation se fait dans des interactions quotidiennes et dans, en particulier, trois sphères différentes. La famille, la sphère où se fait la reconnaissance, s'opère la reconnaissance de nos besoins affectifs, la sphère du droit, où en fait nous sommes reconnus comme des citoyens et citoyennes à part entière et donc où le principe de l'égalité est opérant, et enfin la sphère de la solidarité sociale, la sphère de la coopération, où les individus sont reconnus en fonction de leurs compétences singulières. Donc ces trois sphères de reconnaissance, dans la logique de la psychologie morale de Honnête, permettent en fait de réaliser pleinement l'identité du sujet si cette réalisation se fait sans accident, sans dysfonctionnement. Donc même si Honnête ancre au départ son analyse des relations de reconnaissance dans les relations intersubjectives, des relations réciproques entre individus, il n'en délaisse pas pour autant la question des institutions, puisque, à l'image du droit, elles sont des instances déterminantes de la distribution de reconnaissance. Pourtant, le problème, une fois ces sphères de reconnaissance identifiées, c'est que les gestes de reconnaissance, en un sens, doivent sans cesse être performés, car l'identité des sujets, dans ce modèle intersubjectiviste, nous sommes façonnés par des relations de reconnaissance, nos identités, donc, à ce titre, on peut faire l'hypothèse qu'elles se font et donc elles peuvent se défaire sans cesse si elles ne sont pas soutenues en fait en permanence par ces relations de reconnaissance. Ce qui signifierait que la réalisation de notre identité se rejoue en quelque sorte dans chaque interaction sociale. Elle a besoin de la contribution active de l'ensemble des individus participant à ces interactions pour se maintenir sous une forme non mutilée ou non mutilante. À ce titre, si le rapport à soi du sujet est intersubjectivement constitué, cela signifie qu'il est aussi intersubjectivement vulnérable. Un des apports donc, de la théorie de Honnête consiste à rendre compte des expériences sociales du mépris, qu'il appelle des dénis de reconnaissance, et qui peuvent intervenir au niveau de chacune des sphères de reconnaissance. Ces dénis de reconnaissance constituent des atteintes à l'intégrité morale des sujets, à la fois sur le plan de la confiance en soi, du respect de soi ou encore de l'estime de soi. C'est donc à l'intersection entre théorie de la reconnaissance et théorie de l'émancipation qu'il faut saisir la conceptualisation mouvante des institutions dans la philosophie sociale honnêtienne. Et je voudrais, dans un premier temps, avant d'aborder à cette question de la violence et la manière dont elle met en question la définition des institutions chez Honnête, je voudrais, dans un premier temps, situer rapidement ce qui, à mon sens, fait l'évolution en fait, de la conception institutionnelle ou de la définition des institutions dans la philosophie de Honnête. Donc la philosophie de Honnête, la philosophie sociale de Honnête, elle est marquée par une profonde évolution du rôle de la place des institutions, mais qu'il faut penser sur le fond d'une philosophie de l'histoire adossée à l'idée de progrès moral. Donc à ce titre, en fait, il reste profondément fidèle à Hegel, qui est une de ses sources majeures. Il puise à différents corpus de textes hegeliens, sur lesquels je reviendrai rapidement. Alors, des critiques du pouvoir, donc dès sa thèse de doctorat, la théorie sociale de Honnête se fonde sur l'idée même de progrès moral. Il le conçoit comme un procès de rationalisation qui constitue pour Weber et Habermas une caractéristique principale de la modernité. Un procès de rationalisation donc au cours duquel les groupes sociaux luttent pour construire les institutions qui rendent possibles les formes de vie auxquelles ils aspirent. Donc les institutions sont porteuses à ce titre d'attentes fondamentales que la théorie de la reconnaissance va se donner pour tâche de décrire. Et donc, dans la lutte pour la reconnaissance, un de ses premiers grands ouvrages publiés en 92, en allemand, Honneth défend, alors selon certains commentateurs, à l'image d'Emmanuel Renaud, une conception qu'on peut appeler une conception expressiviste des institutions. Selon cette conception, les institutions ne sont que l'expression des attentes de reconnaissance qui sont ancrées dans les relations intersubjectives. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la reconnaissance qui désigne une relation morale entre individus, par laquelle certains individus se reconnaissent mutuellement des qualités, donc ces relations de reconnaissance sont avant tout, en fait, formées et performées à travers les relations intersubjectives, et donc les institutions ne font en quelque sorte qu'exprimer ces attentes. Ainsi, Honneth explique-t-il que l'institution, et je le cite, peut être véritablement comprise comme une incarnation stabilisée de formes spécifiques de reconnaissance que les sujets s'accordent mutuellement de manière intersubjective en raison de qualités précises. Plus précisément, la reconnaissance de notre valeur psychique et physique serait dirigée donc vers les institutions familiales. La reconnaissance, puisque c'est la sphère où sont reconnus de manière privilégiée les besoins affectifs, la reconnaissance de la valeur de notre liberté, quant à elle, serait dirigée vers les institutions juridiques et politiques, alors que la reconnaissance de la valeur sociale de notre travail serait dirigée vers le marché et l'entreprise. Ces principes de reconnaissance, qui sont variables historiquement, deviennent alors pour Honneth des points d'appui à une forme de critique sociale, puisqu'ils peuvent servir en quelque sorte de point de vue contrefactuel pour évaluer les institutions qui dérogent à ces principes et produisent, selon Honneth, des expériences du mépris ou des expériences de l'injustice. Donc, comme je le disais en introduction, elles sont thématisées chez Honneth comme des dénis de reconnaissance ou des expériences du mépris. Et ces dénis entraînent une expérience du mépris qui affecte, selon Honneth, négativement le rapport à soi des personnes concernées, et donc que Honneth va considérer comme des blessures morales. Ces dénis, qui interviennent, pour le dire très rapidement, dans la première sphère, renvoient pour Honneth à des formes spécifiques de violence, celle qui peut traverser la sphère intrafamiliale, les violences conjugales, l'inceste, les violences sur les enfants. Les dénis de reconnaissance de la deuxième sphère concernent des expériences d'humiliation, où le sujet se voit exclu des droits de la société, ou de certains droits. Cela signifie que l'on ne reconnaît pas à la personne le même degré de responsabilité morale qu'aux autres membres de la société. Enfin, les dénis de reconnaissance de la troisième sphère renvoient à des expériences de dénigrement portées sur des modes de vie individuels et collectifs, qu'Honneth qualifie d'atteinte à la dignité d'autrui. On peut repérer ces expériences de mépris dans les situations de racisme, de stigmatisation, mais aussi dans la sphère du travail. L'histoire du droit moderne et la forme de reconnaissance qui l'institutionnalise, le respect, témoignent justement de l'historicité des principes de reconnaissance qui jouent le rôle justement de ces tests contrefactuels pour opérer la critique de ces expériences de l'injustice. Puisque, une fois qu'elle a été socialement instituée, la reconnaissance comme respect égal, la reconnaissance dans la sphère du droit, a vu sa signification s'approfondir et son extension s'élargir à mesure que davantage d'individus ont été reconnus comme sujets de droit et que la perception des conditions auxquelles l'autonomie individuelle pouvait s'exercer s'est affinée. Les formes du respect sont donc sujettes à un processus de transformation historique impulsé par des luttes pour la reconnaissance, donc des conflits sociaux spécifiques dont la finalité réside, selon Honneth, dans la réalisation effective des attentes normatives, c'est-à-dire des attentes morales suscitées par ce même principe. Pour valider empiriquement cette thèse, Honneth se tourne vers les travaux de l'historien anglais Thomas Marshall. Dans ce livre, Marshall défend en effet l'idée selon laquelle les différentes catégories de droits subjectifs que nous connaissons, les droits civils, les droits politiques et les droits sociaux, ont été acquises progressivement sous la pression de l'exigence d'égalité, à mesure que le concept d'égalité recevait une signification plus approfondie. Emmanuel Renaud, comme je le disais précédemment, critique ce modèle théorique qu'il nomme expressiviste des institutions, parce que selon lui, il se limite à comprendre les institutions simplement comme l'expression de modes préexistants de reconnaissance intersubjective. Envisagées de cette façon, les institutions ne doivent pas être considérées comme des dispositifs produisant par eux-mêmes la reconnaissance ou son déni, mais plutôt comme l'institutionnalisation de rapports de reconnaissance qui relèvent comme tels d'un niveau préinstitutionnel. Cependant, si elles ne font qu'exprimer des demandes de reconnaissance sans les produire, comment penser l'efficacité d'une transformation sociale du point de vue d'une théorie de la justice? Honneth aurait pris en compte ces critiques dans l'infléchissement de son modèle théorique, puisque dans le droit de la liberté, les institutions, donc c'est son dernier grand travail où Honneth propose en fait une réactualisation de la philosophie du droit de Hegel, dans le droit de la liberté, les institutions acquièrent une fonction de premier plan dans le redéploiement de sa théorie de la justice sociale. Puisque les institutions principales que sont le social, la famille, le droit, la moralité, sont ou deviennent les lieux de définition des normes de reconnaissance censées permettre la pleine réalisation de ce qu'il appelle la liberté sociale, la forme la plus accomplie de la liberté. Une liberté dont pourrait bénéficier tout individu à la condition que se réalise la liberté de tous les autres. Ces institutions sont donc aussi le lieu d'un droit de la reconnaissance, selon Louis Carré, qui nous enjoint à comprendre ce droit de la reconnaissance comme une manifestation à la fois subjective et objective de la liberté humaine, un droit de mener une vie éthique réussie au sein des institutions. Ce droit à la reconnaissance se trouve aujourd'hui malmené ou bafoué, raison pour laquelle la critique des injustices qui traversent les institutions est un problème si décisif de la philosophie sociale. Or, dans la philosophie sociale honnétienne, le passage d'une conception expressive des institutions à une théorie sociale proprement institutionnelle, c'est-à-dire qui accorde aux institutions un rôle de premier plan, marquerait, selon certains commentateurs, un affaiblissement de la portée critique de sa philosophie sociale. Elle accorderait un pouvoir limité de transformation sociale aux conflits sociaux, aux luttes pour la reconnaissance. Autrement dit, la réactualisation honnétienne des principes de la philosophie du droit de Hegel impliquerait un épuisement de la portée critique de sa philosophie sociale en lieu et place justement de la critique institutionnelle. En effet, et pour le dire vite et à grands traits, au fondement de sa relecture de Hegel dans le droit de la liberté, donc au fondement plutôt de sa réactualisation de Hegel, Honneth place l'idée de reconstruction normative. Selon cette idée, ou selon cette méthode plus précisément, il s'agit d'articuler de manière serrée théorie de la justice et analyse sociologique de la modernité afin de dégager de la réalité sociale institutionnelle dans laquelle nous vivons les valeurs et les normes au cœur de la compréhension que nous avons de nous-mêmes comme sujet moderne. Pourtant, si les rapports de reconnaissance censés garantir la liberté sociale sont toujours déjà insérés dans des réalités institutionnelles, la question se pose de savoir d'où tirer le point de vue contrefactuel nécessaire à la formulation de la critique, si l'on se refuse, comme Honneth, à formuler des principes a priori qui seraient extérieurs à ces sphères. Même si Honneth entend répondre à cette objection en affirmant que la réalité sociale n'épuise jamais totalement le potentiel normatif contenu dans les institutions, le passage à une critique immanente échappe difficilement à la critique d'un biais conservateur, dans la mesure où il est désormais difficile de saisir la différence entre cette forme de critique immanente et une simple critique interne. C'est la raison pour laquelle je voudrais revenir aux sources de la conceptualisation de l'institution chez Honneth, en particulier dans la lutte pour la reconnaissance, et donc avant ce qu'on pourrait appeler un tournant institutionnaliste, pour emprunter des équivoques originels, notamment en regard de l'idée régulatrice de progrès moral. Je voudrais montrer comment la mise au jour d'un problème de la violence dans la première théorie honnétienne permet de pointer donc certaines équivoques de sa conceptualisation des institutions. Les institutions serait marquée par une possible équivoque du point de vue de la théorie de la justice. Bon, en un premier sens, assez trivial, puisque en elles-mêmes, elles ne sont ni essentiellement oppressives, à l'image des dispositifs disciplinaires chez Foucault, ni évidemment essentiellement émancipatrices, puisqu'elles peuvent ne pas réaliser certaines attentes de reconnaissance et être des vecteurs d'injustice. À l'échelle des institutions, ces injustices peuvent être au moins de deux ordres. Soit elles prennent la forme de litiges et s'inscrivent dans le fonctionnement normal d'un ordre institutionnel et peuvent donc être réglées par la simple application ordinaire des principes inscrits dans ce champ institutionnel. Soit l'injustice prend la forme du tort et donc ne peut pas être formulée dans la grammaire morale disponible parce que les règles d'interaction et les principes de justification sont compatibles avec des formes d'existence insupportable ou des formes d'injustice. Et donc, à ce titre, en fait, cette deuxième forme d'injustice appelle une sorte de refonte de l'ordre institutionnel, et c'est celle que Honneth a en ligne de mire dans sa théorie des luttes pour la reconnaissance. Donc, Honneth s'efforce de penser, avec ce qu'il appelle une grammaire morale des conflits sociaux, une forme de progrès moral. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, donc indépendamment de la critique d'Emmanuel Renaud qui formule cette idée d'une conception expressiviste, est-ce que véritablement les institutions sont les sujets de cette grammaire morale des conflits sociaux ? Autrement dit, les luttes pour la reconnaissance ont-elles la réalité institutionnelle pour horizon ? Puisque si elles ont la réalité institutionnelle, si elles ont la réalité institutionnelle pour horizon, et en particulier la transformation institutionnelle ou même la refonte institutionnelle pour horizon, la question qu'il faut se poser, sinon résoudre, c'est celle de la manière dont une prétendue poussée normative, censée animer les luttes, se cristallise dans la réalité institutionnelle pour les transformer de l'intérieur, voire pour les refonder, afin de supprimer les injustices et donc de produire un progrès social et moral. Alors, pour esquisser en fait des pistes de réponse sur cette constellation de problèmes, je reviendrai donc au chapitre 7 et 8 de la lutte pour la reconnaissance, où Honneth avance la thèse selon laquelle les expériences du mépris social, donc les expériences de l'injustice, comporte, donc à l'échelle de l'individu, un potentiel cognitif et pratique de révolte. Donc ce serait grâce à ce potentiel c'est grâce à ce potentiel donc qu'elles sont susceptibles de pousser les sujets à prendre conscience du fait que leurs attentes légitimes de reconnaissance ont été déçues et qu'il faut transformer les institutions. Et donc c'est aussi ce potentiel de révolte qui les pousse à s'engager dans des formes actives de résistance qui visent à remédier, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne et je commence à être fatiguée, et qui visent à remédier à l'atteinte dont ils ont fait l'objet. Donc il s'agit pour Honneth de défendre l'idée suivante, et je le cite, les émotions négatives qui accompagnent l'expérience du mépris pourraient constituer la motivation affective dans laquelle s'enracine la lutte pour la reconnaissance. Autrement dit, la critique des institutions le premier moteur social de leur transformation serait ancré, selon Honneth, dans une dimension proprement affective, dans une dimension vraiment émotionnelle. Donc, à mon sens, en fait, c'est vraiment une des originalités de sa théorie qu'il adosse en fait à une relecture de la théorie des émotions de John Dewey. Donc l'idée que défend Honneth ici consiste à soutenir que l'expérience du mépris est une expérience critique. Elle ne met pas simplement en question l'identité des sujets, mais elle porte aussi en elle la capacité de faire voir autrement leur situation sociale et d'initier un mouvement de résistance aux injustices produites par les institutions. Or, selon Honneth, l'individu ne parvient à se libérer de cette tension affective provoquée en lui par des atteintes humiliantes, des expériences du mépris, qu'en retrouvant une possibilité d'activité. Et donc les sentiments négatifs liés au déni de reconnaissance fournissent à ce titre un potentiel de discernement moral qui pousse les sujets à la résistance politique. Et donc dans les conflits sociaux, pour honnête, les individus ne cherchent pas d'abord à maximiser leurs intérêts propres, mais luttent pour des motifs moraux, et plus exactement pour garantir les conditions de la reconnaissance ils luttent pour garantir les conditions de la reconnaissance intersubjective. À ce titre, les sciences sociales, les travaux qui interprètent majoritairement les conflits sociaux comme des conflits d'intérêts, écartent en général la motivation morale liée à l'identité. Mais selon Honnête, l'entrée dans la lutte repose sur la possibilité de généraliser l'expérience individuelle du mépris à une expérience collective typique d'un groupe social entier. Il faut donc que les expériences individuelles du mépris social soient traduites dans une sémantique de l'action collective, c'est-à-dire articulées dans un corpus de revendications collectives qui puissent être entendues dans les arènes publiques. En un sens, il faut que cette généralisation s'opère, s'institutionnalise dans une forme de langue commune politique pour que la critique institutionnelle puisse s'articuler et puisse à minima être entendue, à défaut de réussir la transformation. Et c'est la raison pour laquelle Honnête écrit la chose suivante: l'émergence des mouvements sociaux dépend de l'existence d'une sémantique collective qui permet d'interpréter les déceptions personnelles comme quelque chose qui n'affecte pas seulement le moi individuel, mais aussi de nombreux autres sujets. Or, ces sémantiques collectives sont porteuses d'idées et de doctrines morales capables d'enrichir notre vision de la communauté sociale. Honnête semble ainsi proposer un modèle de la transformation des institutions qui exclut le conflit agonistique et la violence, tout en transformant le cadre interprétatif collectif afin que soient pris en charge à l'échelle de la communauté les expériences de l'injustice visée. Pourtant, et c'est là qu'intervient la question de la violence, son modèle des luttes pour la reconnaissance ne se prononce pas a priori sur le sens du recours possible à la violence. Je m'explique. En fait, Honnête écrit cette chose tout à fait étonnante. Il écrit: interpréter ainsi la lutte sociale à partir d'expériences morales n'implique aucune décision théorique préalable quant au caractère violent ou non violent de la résistance. C'est à la description empirique de dire si les groupes sociaux recourent aux moyens pratiques de la force matérielle, symbolique ou passive, pour exprimer et dénoncer publiquement le mépris et les offenses typiques dont ils se sentent les victimes. Ainsi, la violence politique est pensée comme un moyen parmi d'autres du conflit de reconnaissance. La considérer comme une ressource de l'action collective permet d'écarter une lecture irruptive de cette violence politique, mais surtout requalifier la violence comme s'inscrivant dans un conflit de reconnaissance implique de l'inscrire dans une dynamique normative de lutte contre des expériences morales négatives, et donc en fait, ouvre à la question possible, ou esquisse à la question de sa possible justification morale. Et de ce point de vue, ce qui apparaît comme contradictoire avec un autre postulat de la théorie honnêtienne, c'est que la dimension proprement traumatique de la violence est ici occultée, de même que ses effets sur l'identité pratique de ceux qui la produisent, et de ceux qui en sont victimes. Cette dimension, qui est pourtant fondamentale pour la théorie de l'identité honnêtienne, puisque la violence intervient dans la première sphère de reconnaissance, celle de l'amour, où se constituent les bases affectives de l'identité du sujet, comme la forme paradigmatique du déni de reconnaissance. Ce problème de la violence pointe donc ici, à mon sens, une difficulté de la théorie de Honnête, dont on trouve des traces dans sa relecture des textes d'Iéna de Hegel, dont je vais vous dire deux. Commentant ces textes, toujours dans la lutte pour la reconnaissance, Honnête montre que la violence du crime sert non seulement... il s'intéresse beaucoup à la question de l'interprétation du crime et du criminel. Donc il montre que, dépassant en cela Hegel, Il montre que la violence du crime sert non seulement de révélateur à la vulnérabilité constitutive de la personne humaine, mais qu'elle est aussi une expérience sociale dotée d'une portée critique et animée d'une dynamique normative. Donc si les sujets et les groupes construisent leur identité et achèvent leur autonomie seulement à travers des luttes pour la reconnaissance, cela signifierait qu'il y aurait une justification morale de la violence et que le crime, de ce point de vue-là, pourrait rentrer en fait dans ce mouvement général de justification morale. Donc non seulement le recours à la violence comme moyen d'un conflit de reconnaissance se trouve justifié, mais cela pourrait signifier que le concept de conflit de reconnaissance serait intrinsèquement violent. Le concept du conflit de reconnaissance. Quels que soient ses moyens d'action, ce type de conflit vise la reconfiguration de l'ordre social, c'est-à-dire la transformation de la manière dont les lois et les institutions saturent les possibles normatifs des individus et empêchent la réalisation de certaines formes d'autonomie. Autrement dit, ce type de conflit viserait la mise en crise de la reproduction sociale. Et de ce point de vue, la violence ne renverrait pas à ce qui peut potentiellement détruire les identités, mais à ce qui fait disruption dans l'ordre social et caractérise la dynamique des luttes pour la reconnaissance. C'est la raison pour laquelle Jean-Philippe Doranty insiste sur la filiation marxienne de la philosophie sociale honnêtienne. Sa théorie de la reconnaissance, selon cet auteur, serait en réalité une relecture de la lutte des classes à l'échelle des identités et la violence l'instrument grâce auquel le mouvement social réussit à vaincre. Ce sont dans les expériences réprimées de souffrance que les progrès historiques trouveraient leurs principales ressources. Cette interprétation donc très agonistique de la théorie de la reconnaissance montre, à mon sens, que la théorie honnêtienne ouvre la voie à une critique radicale des institutions et de la transformation institutionnelle, mais qui pose une série de problèmes. Car si le crime, qui est le schéma à partir duquel se pense au départ la dynamique normative de la formation de la vie éthique, si le crime en fait au départ est le schéma grâce auquel Honnête pense la dynamique normative, cette première idée rentre en contradiction avec la formation même de la vie éthique, qui est censée préserver la portée émancipatrice de l'institution du droit. Et donc, comment considérer dans un même cadre théorique le crime, le vol, l'insulte comme porteur d'une dynamique de révolte contre l'injustice et comme des formes de tort? Le philosophe social est ici confronté à un problème à l'interface entre diagnostic critique et théorie normative de la société. Ainsi, le problème de la violence questionne les conséquences critiques, théoriques et morales de l'idée téléologique de progrès moral qui est censée en fait produire la transformation des institutions. C'est la raison pour laquelle, et je conclurai sur ce point, le problème de la violence révèle l'équivocité des rapports entre conflit de reconnaissance et critique des institutions. Si Honnête laisse ouverte la possibilité de la violence, c'est sans doute pour faire droit aux nombreux travaux en sciences politiques et en sociologie politique qui insistent sur le pouvoir disruptif et critique de certaines violences politiques vis-à-vis d'ordre institutionnel oppressif. Cependant, comme il ne thématise pas la distinction entre lutte pour la reconnaissance qui serait non violente et lutte de reconnaissance proprement agonistique, il est difficile de savoir, comme le lui reproche Rancière, si la grammaire morale porte réellement l'idéal d'une nouvelle politique et d'une refonte en profondeur des ordres institutionnels de la modernité, ou si cette grammaire morale n'est qu'une forme renouvelée de reproduction de la société. Merci.